C'est toute une commande qui attend les Alouettes à leur retour d'une semaine de congé. Ils affrontent la seule équipe invaincue de la Ligue canadienne, les Stampeders de Calgary. Et c'est avec deux recrues pour protéger Drew Willey que les oiseaux se mesurent à la meilleure défense du circuit. Alouettes, Stampeders, au réseau Cogeco. Monsieur Steve Charbonneau, bonjour ou bonsoir, dépendant du point de vue où on se place.
Salut Jean, ça va bien.
À nous autres ici, c'est encore le jour.
Oui.
Mais c'est pas le même jour qui a commencé. On a commencé, il faisait 26, 28 degrés, ouais. Beau soleil. Là, il y a une pluie fine qui tombe sur le stade. Et généralement, ici, il vente. Et ça a l'air de vouloir être le cas.
Ouais.
Ça peut avoir une influence.
Ça peut avoir une influence sur les bottées de dégagement qui sont normalement plus en hauteur. Peut-être que l'avantage du terrain, justement, l'équipe qui va choisir le vent dans le dos, ça va aider pendant qu'ils sont sur ce côté-là, mais éventuellement, ben, c'est, évidemment, ça change.
Les Alouettes reviennent d'une semaine de congé. D'habitude, ça donne un avantage. On soigne nos bobos, on a plus de temps pour préparer le plan de jeu et tout ça. C'est drôle, j'ai pas l'impression qu'ils ont un gros avantage, les Alouettes, parce que contre Calgary, c'est la meilleure équipe, invaincue cette année, meilleure défense de la Ligue, une des meilleures défenses de l'histoire pour un début de saison.
Ouais, puis contre, évidemment, les Alouettes, c'est la pire attaque de la Ligue, donc contre la meilleure défensive de la Ligue. Ça va être difficile, mais les gars sont retournés à la maison. Moi, je suis pas un gros fan des congés comme ça, je vais être honnête. Quand tu gagnes, ben évidemment tu veux pas que le momentum arrête. Et quand tu perds, je trouve que c'est une semaine qui est de réflexion. Tu repenses un peu à tout ça,
à tes péchés.
Est-ce que en tant que joueur, t'as fait les bonnes choses? Est-ce que puis là, tu sais, tu te retrouves chez vous, puis c'est cool parce que quand même les gars et les coachs aussi, ils vont à la maison, ils vont voir leurs enfants, leurs femmes, c'est parfait, ils font un vide, c'est normal.
Parce que maintenant, à l'époque, les entraîneurs pouvaient donner deux jours de congé, appeler une séance d'entraînement, alors que là maintenant dans la convention collective, je pense que c'est 5 jours. Absolument rien. Pas le droit de réunion d'équipe, pas le droit d'entraînement.
Mais tu sais, Jean, ça peut avoir l'effet contraire aussi. C'est sûr que nous, on le sait pas, on n'est pas nécessairement dans le vestiaire, mais l'effet contraire. Quand ça va pas bien, la nature étant ce qu'elle est, qu'est-ce qu'on fait en tant que joueur? On commence à pointer les autres. C'est pas de ma faute. Donc, les gens sont plus, ils se sentent plus imputables. Fait que, ou redevables à personne, puis c'est ça qui me fait peur, moi, de revenir ici, puis que les gars, ils disent, ben moi, je vais continuer à faire ma petite job tranquillement, puis si on gagne, on gagne, puis si on gagne pas, on gagne pas. Ça sera pas de ma faute. Hey, attends une minute, c'est ça qui est risqué.
Avec une fiche d'une victoire, 3 défaites, certains s'attendaient à ce qu'il y ait des changements importants. Certains pensaient même que peut-être Ernest Jackson pourrait recevoir son bleu, comme on dit, parce que il a démontré lors du dernier match, quand son équipe était en arrière, qu'il commençait à ressembler au Ernest Jackson de l'année dernière, c'est-à-dire manquait de combativité, à un moment donné aurait pu revenir pour aider son quart arrière, ne l'a pas fait. C'est la 3e fois dans ses 10 derniers matchs qu'il ne gagne pas une verge, capte pas un ballon, ne court pas avec le ballon. Auparavant, là, dans sa carrière, il y avait eu un match où il n'avait rien gagné. Là, ça fait 3 hors des 10 derniers. Il y a eu des changements, effectivement, chez les Alouettes, mais il n'y a pas eu un gros coup comme ça. Est-ce que toi, tu te serais attendu à ce qu'il y ait un gros coup? Ou il est trop tôt dans la saison?
Je pense qu'il est trop tôt. C'est sûr qu'on est. C'est difficile. Présentement, on a beaucoup de blessures dans l'équipe. Les entraîneurs, là, Mike Sherman puis ses hommes, ils peuvent seulement travailler avec les gars qui sont sur le terrain. À deux aspects, deux choses, deux points de vue. Le premier, c'est est-ce que Kavis Reid a fait le boulot en amenant les bons joueurs au camp d'entraînement, de un, parce que lui, il faut qu'il joue avec les... Sherman, il faut qu'il travaille avec ce qu'il y a, et les blessures, évidemment. Donc, qui on a comme backup? C'est ça qui est important. Et là, ben évidemment, je m'attendais pas à voir de gros changements. Non, je pense que tu as raison. Il est un petit peu trop tôt.
Il y a deux joueurs de la formation partante qui ont perdu leur poste. En fait, 3 qui ont perdu leur poste, 2 qui ont perdu leur emploi. Xavier Fulton sur la ligne à l'attaque. Jermaine Robinson, demi-défensif maraudeur qui a été libéré. Et il y a également Dominique Ellis qui n'est plus partant en défense. Mais parlons d'abord de la ligne à l'attaque parce que là, on affronte la défense qui mène la ligue avec 13 sacs depuis le début de la saison. Et on va y aller avec des vrais recrues à chaque bout de la ligne à la position de bloqueur. avec Natai Rogers du côté droit, un jeune homme de 23 ans, un petit bonhomme de 6 pieds 5, 299 livres. Il arrive de l'université de Houston. Et à l'autre bout, un gars qui était même pas avec l'équipe lors de la dernière défaite, il s'est amené dimanche dernier, Tyler Johnstone, qui lui arrive de l'université de l'Oregon en passant par une année dans la Ligue nationale de football sur l'équipe de réserve. Mais là, on s'entend qu'aux deux extrémités sur la ligne à l'attaque, là, c'est assez important.
Ouais, puis la différence entre la Ligue canadienne puis la NFL ou même le football collégial, c'est qu'on a la verge qui sépare la ligne à l'attaque et la ligne défensive. Et l'autre aspect qui est différent, surtout, c'est qu'on est une ligue de passeurs. On est une ligue qui, le jeu, c'est du jeu aérien. Donc, si l'autre équipe, étant Calgary, qui sont vraiment disciplinés puis sont toujours bien préparés, ils ont effectivement deux choses. Ils ont un carrière qui est un peu magané parce qu'il était Drew Willey était blessé contre Ottawa.
Et c'est lui qui revient et aujourd'hui.
Il revient aujourd'hui. C'est un pocket quarterback. C'est un carrière qui est pas mobile du tout. On se doute qu'il va essayer évidemment de passer. C'est un gars qui prend énormément de temps pour lire ses receveurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amener. On va s'amener avec des blitz de coin, des demi de coin, les secondaires extérieurs.
Et là, les deux jeunes hommes au bout de la ligne, ils n'ont jamais vu ça arriver, eux autres. Là.
Et là, eux vont devoir d'une chose.
Décider qui ils bloquent.
Surtout si on fait de la protection à 5, comme les Alouettes ont tendance à le faire. Là, par contre, on a comme un peu su entre les branches qu'on était pour présenter quelque chose de nouveau et probablement une protection un peu plus...
À 6 joueurs souvent.
À 6 joueurs. Mais ça, n'empêche qu'il faut quand même que le joueur qui est complètement à l'aile doit se retourner, tourner ses hanches, doit même pourchasser le débit ou le demi de coin qui s'en vient à toute allure. Je pense que ça risque de faire mal, surtout sur le backside, donc sur l'angle mort de Drew Willey.
Donc, à sa gauche, parce qu'il se retourne vers sa droite pour passer le ballon.
Exactement. Fait qu'il voit pas les gars s'en venir. Johnstone a beaucoup de pression à ce niveau-là. J'espère qu'on va venir l'aider avec Pat Lavoie ou même Sutton pour lui donner un petit coup de main.
J'ai hâte de voir aussi dans quel état physique il est, parce qu'il a pas joué un vrai match, lui, depuis 2 ans. Il a vendu même des autos l'année passée, à un moment donné. Il continuait de s'entraîner. Il a été libéré au printemps 2017. Ça fait un bout de temps qu'il n'a pas joué un match. Là, il s'entraîne au football seulement depuis dimanche dernier. On lui a demandé s'il pensait qu'il allait être prêt physiquement pour le match d'aujourd'hui. On l'écoute.
Of course, it always takes a little time to get back in football shape. There's the only way to get in football shape is to play football. But as far as like how I feel, I was in a lot of pain last time I was on the field. I had a foot that was about to break. My knee wasn't doing too well after my senior season in college, and I was pretty banged up. So this last 2 seasons, kind of getting off feet, getting some biomechanical stuff figured out, and fixing myself was actually pretty big. And I feel great right now, way better than I have since like sophomore year, freshman year of college.
D'un côté, d'entrée de jeu, il nous le dit, être en forme puis être en forme pour jouer au football, c'est pas la même chose. Sauf que il se sent mieux physiquement que la dernière fois qu'il était sur un terrain, parce que à la suite de sa carrière universitaire, où il a d'ailleurs protégé Vernon Adams à son année senior avec Oregon à l'université, il dit « J'avais mal partout. J'avais un pied qui était sur le point de casser. J'avais mon genou qui me faisait mal. Mon dos allait pas bien. » Bref, il dit « Je me suis jamais aussi bien senti. » Mais il avoue que pour ce qui est de la forme comme telle, de jeu, on va voir ce que ça va donner, parce qu'une autre histoire qu'il va découvrir, lui, son père est canadien, son père est de Calgary, mais lui, il a toujours joué au football aux États-Unis. Ça veut dire que le jeu, avec 20 secondes entre chaque jeu, il connaît pas ça. Il va trouver que ça va vite.
Et ça va vite. Mais j'avais un petit rire en coin pendant que tu parlais, parce que je me disais, c'est peut-être aujourd'hui un match qui va l'aider pour venir en forme, un match de plus, une semaine de plus, parce que j'ai l'impression que l'attaque sera pas souvent sur le terrain.
Il va avoir le temps de se
reposer. Se reposer, oui.
Mais honnêtement, moi, ce que j'aime dans ce que je vois aujourd'hui, on n'est pas allé chercher des pièces dont d'autres équipes se sont débarrassées. Tout ça, on y va avec des jeunes au moins. Là, on sent qu'il y a un changement qui est en train de s'effectuer. Et tu parlais de qu'on a vu à l'entraînement cette semaine qu'on est allé souvent avec 6 joueurs de ligne défensive. Et à ce moment-là, qui s'amène? C'est le premier choix des Alouettes, Trey Rutherford. Mm-hmm. Un autre jeune. Donc, on a l'impression que au moins, Là, on est en train de bâtir quelque chose.
Oui, de ce côté-là, on bâtit, c'est le fun. Mais moi, je suis pas hyper nostalgique des années de Jim Pop. Par contre, Jim Pop, on va lui donner le mérite qui lui revient. Il trouvait du monde, des joueurs
prêts à jouer.
Prêt à jouer, mais que personne connaissait. Lui, il a fait ça. Tu sais, il y a des gars là, comme Wamba, là, moi pis toi, on est capable de le signer. Là. Demain matin, on est agent, là, pas agent, mais directeur général, on le signe. On sait ce qu'il est capable de faire.
Joueur par excellence défensif au Canada.
Tommy Campbell, on est capable de le signer. Tu sais, des gars, on est capable de signer ces gars-là. Mais ce que Jim Pop faisait, que j'ai pas vu encore de Kevis Reed, c'est d'être capable de dénicher la perle rare à quelque part, qui arrive ici, puis qui... C'est une grosse surprise, puis il est capable de connaître un gros, gros match, puis qu'il peut même être un game breaker. On n'en a pas présentement.
Donc, l'année dernière, il l'a fait très peu. Cette année, j'ai l'impression qu'il le fait un peu plus. D'ailleurs, on va le voir en défense aujourd'hui, alors qu'il y a deux nouveaux qui s'insèrent dans la formation également. Greg Ducrey, qui est un gars de 26 ans, qui a joué un petit peu, lui, dans la NFL. Il a joué 10 matchs, 5 avec les Chargers, 5 avec les Redskins de Washington. Il y a une interception. Il s'amène comme demi-défensif. Il porte le numéro 26. Et il y a Kevin Haynes, un secondaire, qui a signé il y a quelques semaines. Et lui, je suis allé voir ses statistiques à l'Université Central Washington. Watatatou, ses deux dernières saisons, plus de 100 plaqués, une machine à plaquer. Ça, Central Washington, c'est la même université que le choix au repêchage des Alouettes, Bo Banner. C'est la même université que Mike Riley, des Eskimos d'Edmonton. C'est un bon programme de football. C'est pas dans les grands programmes, mais c'est un bon programme de football qui joue justement à l'occasion contre Oregon, contre même LSU et tout ça, parce qu'il joue dans l'Ouest. Bref, on a hâte de voir ce que ça va donner. Il a été inséré dans la formation essentiellement pour jouer sur les unités spéciales en début de...
Ouais, pour venir à Haynes, par contre, je regarde 6 pieds 1, 228 livres. Là. Souvent, au niveau collégial, on joue une 34 avec un secondaire qui est plus gros comme lui, là, dans le fond. Puis on le joue comme Rover. Donc, il va s'amener sa ligne défensive beaucoup. Il va venir en support à la ligne défensive. Puis en plus, surtout contre des équipes qui courent beaucoup, beaucoup le ballon, c'est normal qu'il va avoir plus... Mais là, on va lui demander de couvrir les receveurs. Et dans la Ligue canadienne, les receveurs sont rapides.
Mais un gars qui a 100 plaqués, je présume qu'il y a un peu de mobilité.
On va le voir.
on va sûrement avoir le voir. Peut-être pas beaucoup aujourd'hui parce que je ne m'attends pas à ce qu'il y ait beaucoup de temps
non,
de jeu
c'est ça.
En défense. Mais il faut revenir à l'attaque et à la ligne à l'attaque. J'ai demandé à l'entraîneur de la ligne à l'attaque, M. Paul Dunn, qui est un gars d'expérience, qui a déjà travaillé longtemps dans les universités. Lui-même est l'ancien co-chambreur de Dan Marino. Il était un de ses protecteurs. Il jouait sur la ligne à l'attaque de l'université Pitt, de Pittsburgh. Il a également été entraîneur à Penn State. Il a été entraîneur de ligne à l'attaque dans la NFL également. J'ai demandé, là, vous avez deux jeunes là qui jouent un premier match professionnel à chaque bout de la ligne. Sur quoi vous voulez mettre l'emphase? Vous voulez leur demander d'être patient, d'être attentif? Qu'est-ce que vous voulez de votre jeune ligne à l'attaque? On écoute la réponse de Paul Dunn.
Obviously, we're going against a great team in Calgary, and they're tough. Our physical and mental toughness has to step up. That's what would help them in the best part, whether it be in the run game or the pass game. You know, we know that we're in for a physical matchup, and our guys just have to be prepared to step off of that plane and get ready on Saturday night to be in a really physical war. And that's our biggest challenge. It's not a run game, pass game thing. Our challenge is meeting the physicality of Calgary and then trying to surpass that.
C'est pas la technique contre la course, contre la passe. C'est pas la verge entre les deux lignes à l'attaque et ligne défensive qui est différente aux États-Unis où on est nez à nez. Il dit ce sur quoi je veux que mes gars se concentrent aujourd'hui, c'est qu'ils sachent que c'est une bagarre, que c'est physique. Et d'ailleurs, la ligne à l'attaque montréalaise, il n'y a personne de 300 livres dessus, ce qui est une rareté de nos jours dans la Ligue canadienne. Généralement, il y en a 3 ou 4, des fois 5 sur 5 qui font plus de 300 livres, alors qu'on en a un qui, en théorie, est à 299 livres présentement. Natai Rogers. Il y a Kirby Fabian qui, en théorie, il fait 305. Ah ben oui, il doit être revenu à 305. Il est allé manger chez sa maman hier parce qu'il est de Calgary. En passant, il a amené tous les joueurs de ligne à l'attaque qui sont allés manger chez Madame Fabien, la mère de Kirby Fabian, ici à Calgary hier. Bref, c'est une jeune ligne à l'attaque, du moins aux extrémités. Et avec le Kirby Fabian garde d'un côté, Christian Matt et Ryan Bumbin au milieu, eux ont plus d'ancienneté, plus d'expérience. Ceci dit, il doit protéger une statue derrière eux, Drew Willey.
Oui, c'est une statue.
Jeff Matthews, la semaine dernière, il y a deux semaines, avait peut-être suffisamment bien joué pour obtenir un départ, sauf qu'il s'est blessé.
Ouais.
Fait qu'on revient à Drew Willey. Est-ce que Willey, maintenant que Matthew Schultz est prêt, qui a pris part à toutes les séances d'entraînement depuis plus de deux semaines, est-ce que Willie joue un peu son avenir aujourd'hui?
Ben, je sais pas, mais d'amener un jeune comme Schultz c'est honnêtement, c'est de l'envoyer à l'abattoir. Là. Drew Willey, c'est quand même celui qui a le plus d'expérience, surtout pour affronter une défensive comme Calgary.
Hey, il y a relativement de succès contre Calgary.
Oui, exact.
C'est-à-dire, ben, il y a 8 passes de toucher, 2 interceptions, 73% de passes complétées. Ça, c'est excellent. La seule affaire, c'est qu'il y a une victoire, 5 défaites.
Oui. Honnêtement, on ne sait pas ce qui va se passer, mais tu regardes, là, le coach, il l'a dit, il va falloir que la ligne à l'attaque step up à un moment donné. Puis là, c'est plus juste d'avoir le nez, de connaître ses jeux, d'avoir le nez dans son playbook. C'est pas juste d'avoir une bonne communication. Je pense que là, ça part... C'est une motivation intrinsèque, là. Faut que ça part dans dedans, là. Puis il faut que les gars m'emmener un peu d'orgueil, là. Tu te fais battre. Faut pas que tu te fasses battre à tous les jeux. Puis il faut que tu protèges ton carrière parce que lui, il y en a juste 3 sur le sideline. Puis honnêtement, les gars, il va falloir qu'ils step up. Il l'a dit. J'espère qu'ils vont être capables de le faire contre des gars. Écoute, on regardait les statistiques, tu l'as mentionné tantôt, c'est 13 ou 14 sacs à la gang. Mais là, tu sais, la ligne défensive, là, Johnson, Davis, Law, 2 sacs. Honnêtement, j'espère juste que Drew Willey va sortir de ce match-là en santé. C'est mon seul souhait, c'est ça. Victoire ou défaite, va falloir que ce gars-là, on le protège un peu mieux. Puis là, les portes tournantes là à Montréal, au niveau des au poste de carrière, il va falloir que ça arrête un jour, mais si on les protège pas, nos carrières, mais ça arrêtera pas. C'est ça qui est malheureux.
Mais Willey se retrouve dans une curieuse position. On s'entend que ce serait presque, pas un miracle, mais ce serait une surprise énorme si les Alouettes gagnaient ce match-là en faisant beaucoup de points. Ça peut arriver que la défense... on a vu le match tantôt... Toronto qui a perdu, qui n'a pas marqué de toucher en attaque, qui a marqué un toucher sur les unités spéciales, qui a marqué un toucher en défense. Peut-être que les Alouettes peuvent sortir un gros match, mais est-ce qu'il sera encore le quart partant contre Edmonton cette semaine? Qu'est-ce qu'il faut faire pour garder son emploi?
Ouais.
Parce qu'à un moment donné, si on a tourné la page chez les joueurs de ligne à l'attaque, si on utilise de jeunes joueurs en défense, on va peut-être se tourner vers la jeunesse au poste de quart réellement.
Ouais, puis les gars, les carrières, peu importe le présentement, là, jouer au poste de carrière, là, c'est considéré un métier dangereux, là. À Montréal, présentement.
Pas juste à Montréal. Écoute, Matt Nichols revenait au jeu aujourd'hui. Beau Levi Mitchell, on en parlera tantôt, était un cas douteux pour le match d'aujourd'hui. Naturellement, Ricky Ray est tombé au combat. Ça tombe de partout. Il y a eu des blessés également chez les Lions de la Colombie-Britannique.
Et c'est pour ça que Mike Schultz, il l'a dit à un moment donné, il craint un peu probablement Calgary, parce que c'est un système de jeu qui est pas bâti autour d'un seul joueur.
C'est pas une bête qui court après les carrières, c'est l'équipe.
C'est l'équipe au complet. Donc nous à Montréal, c'est un peu ça que je pense que on regardait le roster là en début du camp d'entraînement, on n'avait pas vraiment un corps numéro 1. On a un paquet de corps et axes, on a des bons numéro 2 puis numéro 3, mais à quand on va amener un corps et axes numéro 1, ou que c'est peut-être il est sur le sideline puis on ne le sait pas, là, ça se pourrait. Mais éventuellement, il va falloir qu'il y ait une étincelle à quelque part, puis là, on l'a pas vu vraiment dans les derniers matchs, puis là, est-ce que ça va être ici? Moi, j'espère ça sera pas le même score que l'année passée dans le mois de septembre. Je pense que c'était 59 à 11.
Et le toucher était venu tard dans le match, mais j'ai l'impression que ça sera pas à sens unique autant que ça, parce que j'ai l'impression que l'attitude au sein de l'équipe est bien différente.
Ouais, puis ils ont changé apparemment cette semaine. J'ai parlé à Tucker,
l'instructeur des receveurs,
qui apparemment ont fait beaucoup de changements cette semaine. Donc, j'ai bien, bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous présenter sur le terrain.
Ben justement, dans les défis qui se présentent aux Alouettes, le pauvre Drew Willie, non seulement il y a deux nouveaux bloqueurs pour le protéger, il n'y a pas son as receveur de passe, Chris Williams, qui est blessé au quadriceps, qui est le meneur de l'équipe avec 283 verges de passe depuis le début de la saison. Les Alouettes n'ont en théorie que 6 receveurs de passe en uniforme, dont les receveurs canadiens Stephen Adekolu et George Johnson, qui n'ont pas capté une seule passe jusqu'à présent cette saison. Bref, pour Drew Willie, ce ne sera pas facile. On lui a demandé quels étaient ses objectifs pour le match d'aujourd'hui.
It was just one game, so it's a little different when you know you have a longer stretch when you're out. But you know, same kind of thing. We just got to be better on second down. I think that's really been hurting us. We were fortunate enough to get some explosion plays. We have had, you know, some explosion plays. That's really when we've scored, is when we've gotten explosion plays. We haven't had many 10, 12 play drives. It's usually been on a deep pass or a study run or something like that to get us going. So we just got to be better with all the details so you can get those long drives where you can keep possession, you know, because I don't think we've been great in the time of possession. So it's one of those things where we just got to make sure we're more detail oriented, you know, and then converting second downs.
Donc, il a passé un match sur les lignes de côté. Il dit que ce n'est pas comme si on s'était absenté longtemps, mais ce que j'ai noté, et c'est la même chose qu'en début de saison, il faut être meilleur sur les deuxièmes essais. Il faut être capable de rester sur le terrain, car lors de deux des trois défaites, celle contre Winnipeg et celle contre Ottawa, juste avant la pause, le temps de possession a été largement à l'avantage de l'autre équipe. Du côté de l'attaque des Alouettes, le meilleur résultat jusqu'à présent, ça a été lors du premier match avec 337 verges d'attaque nette, alors qu'en moyenne, en défense, l'attaque des Alouettes accorde plus de 400 verges. Donc, il y a vraiment une disproportion au niveau du temps de possession, et ça ne sera pas évident.
Non, c'est ça exactement. Le temps de possession là, pour Calgary, en moyenne, c'est 33-34 minutes, puis Montréal, 26-27 minutes à peine. C'est aussi dans la zone payante. Les statistiques, évidemment, c'est 42-43% pour Calgary et 33% pour Montréal. Il va falloir le temps de possession, là, faut contrôler justement, aller chercher un premier essai, first and ten. On va chercher un 5-6 verges. C'est-tu par la course, c'est-tu des petites passes dépanneurs? Allons-y tranquillement. Gardons l'offensive, l'attaque sur le terrain. Gardons évidemment l'offensive adverse sur les lignes de côté. C'est ça qui est important. Bien distribuer le ballon, ça va être très important aussi. Tu peux pas jouer du football de rattrapage. Ça, là, ça va être important pour Montréal.
Contre n'importe quelle équipe, les Alouettes n'ont pas l'attaque pour jouer du football.
Non, parce que quand tu es en football de rattrapage, évidemment, tu délaisses le jeu au sol. Sutton, qui malheureusement, je pense qu'il pourrait être utilisé beaucoup plus, mais on n'est pas capable de bloquer pour lui tant que ça. Donc, et puis on l'utilise souvent pour comme sixième bloqueur. Donc, évidemment, c'est plus un porteur de ballon, mais j'étais pour dire une cible aussi pour les petites passes dépanneurs. Donc, ça va être très important de jouer du football
de base,
bien performer, rester sur le terrain. Puis notre ami BD, je pense qu'il pourrait avoir une grosse journée également avec des bottés de placement.
Dans le vent à Calgary, c'est pas toujours évident au vieux stade de McMahon. On va faire une petite pause au retour. On va parler des adversaires des Alouettes parce qu'ils n'étaient pas en congé, eux, cette semaine, les Stampeders de Calgary. Et on s'est posé la question longtemps, est-ce que ce serait Bo Levi Mitchell qui serait le cœur ou si on allait lui donner congé vu ce... J'ai été un petit peu blessé, puis il jouait contre les Alouettes, puis tout ça. Mais ça a l'air, c'est lui qui va être là. On fait une pause. Au retour, le match. Stampeders contre Alouettes, en direct de Calgary. Vous écoutez le football des Alouettes au réseau Cogeco. Les Alouettes affrontent la meilleure équipe de la Ligue canadienne depuis une décennie. La meilleure équipe de la Ligue canadienne cette année. Et si on se fie au début de saison des Stampeders de Calgary, Ils sont en train de battre des records en défense. Et tu sais que je suis un gars de statistiques, je vais t'en sortir quelques-unes. D'abord, ils ont accordé seulement 9,5 points par match. C'est le plus bas total de la LCF depuis 1958. Je te dis pas qu'ils vont faire ça toute la saison, mais quand même. Ils ont marqué 30 points par match. Ça veut dire qu'un différentiel de plus 20 points et demi, le record, c'est 19. Ils ont alloué en moyenne 250 verges à leurs adversaires d'attaque totale. C'est 76 verges de moins que n'importe quelle autre équipe dans la Ligue. C'est aussi le plus bas total des 54 dernières années. Ça n'a pas de Moses de bon sens. Revirement, ils sont plus 9. La deuxième meilleure équipe est plus 1. Donc, en plus de ça, ils créent des revirements. Des statistiques individuelles pour accompagner ça. Dave Dickinson, 32 victoires en 40 matchs. C'est la meilleure fiche de l'histoire de la LCF comme entraîneur-chef. Et pour ce qui est du quart arrière, Bo Levi Mitchell, lui, il est le plus rapide à atteindre son total de victoires jusqu'à présent. Il est 60 victoires en 72 matchs. Jamais personne n'a atteint ce chiffre plus rapidement que lui. Bref, c'est vraiment toute une commande. Mais comme on disait avant la pause, on se posait la question, est-ce que Bo Levi Mitchell va jouer ou on va se dire, bof, dans le fond, on n'en a pas vraiment besoin. On a posé la question à Dave Dickinson. On écoute sa réponse.
Listen, if your starter's healthy enough to play, we're playing him. It's professional football. Everyone's going to be sore and have some things that bother him. You just want to be smart about it, that you're not, you know, you have some mobility and you feel like you can push off and be effective. Once that was established, he's good to go, then ultimately it was an easy decision.
Donc la décision était facile pour Dave Dickinson. Si le gars il est assez en santé pour pratiquer, il est assez en santé pour jouer.
C'est un beau message qui passe là parce que on le sait que dans la Ligue canadienne, tu as des partisans qui paient des billets ici pour voir Bo Mitchell jouer au football. S'il est en santé, tu le mets sur le terrain. Oui, fine, je suis d'accord avec lui. Par contre, peut-être qu'à la mi-temps, on verra de quel bord que ça va aller. Peut-être que Bo Mitchell va devoir jouer tout le match. Mais si c'est un match à sens unique du côté de Calgary, peut-être que là, on va y aller intelligemment parce qu'eux autres, ils ont quand même deux gros matchs qui s'en viennent, là, Saskatchewan et Vancouver.
Parce qu'ils vont commencer à jouer contre les équipes de l'Ouest parce que leurs cinq premiers matchs étaient contre des équipes de l'Est.
Exact.
Ils vont pour une cinquième victoire d'affilée. Et Bo Levi Mitchell aussi voulait jouer. Tout le monde a des bobos, un peu comme Dave Dickinson l'a dit. Et quand on lui dit « Oui, mais c'est les Alouettes, vous avez des bonnes chances de gagner, même si c'est pas toi qui es là. » Écoutons la réponse de Bo Levi Mitchell.
« The reason we are who we are in this organization is because we don't take anybody lightly. And we're not going to wait for a loss to get surprised and say, okay, now let's try and play good. You know, that's our wake-up call right there. Now let's just go back to how we play. We are who we are because we take every single team very, very seriously and treat them as the best team in the league. And it's just how we all have always been. It's the message Dave and Huff have always given us.
Donc, c'est le message que John Huffnagel et Dave Dickinson nous ont toujours passé. Toutes les équipes, nous devons les prendre sérieusement. Jouer contre comme si c'était la meilleure équipe de la Ligue qu'on affrontait. Et c'est pour ça qu'il est de la partie. Bref, donne aussi le ton, agit en leader auprès de ses coéquipiers.
Ben exactement. Tu sais, c'est des leaders comme ça, justement, qui amènent le jeu, le style de jeu, le je cherche mes mots, là, mais bring the game up. Justement parce que t'as un gars comme ça qui est sur le terrain, qui joue probablement blessé. Si lui est là, ben nous, on va en mettre toujours un peu plus en tant que joueur pour prouver qu'effectivement, ce gars-là est un leader, il va leader par l'exemple. T'en mets toujours un peu plus.
Et ce que les Stampeders ont fait, comme dans les grosses années des Alouettes, on a renouvelé de l'intérieur. Dave Dickinson s'est amené, la transition s'est faite en douceur après John Huffnagel. Et il y a 29 joueurs de cette équipe qui en sont au moins à leur troisième saison à Calgary. Ça, c'est deux fois plus que chez les Alouettes. On a seulement 15 joueurs qui en sont à la troisième saison ou plus. On va faire une petite pause. Au retour, la beauté d'envoi de ce cinquième match de la saison des Alouettes qui rendent visite aux Stampeders à Calgary. Vous écoutez le football des Alouettes au réseau Cogeco.